Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. Je suis Camille et je suis accompagnée ce soir d'Arthur qui est en régie.
Bonsoir.
Et nous avons le plaisir de recevoir trois invités du Super Cafouche. Donc nous avons ce soir Adjer, qui est en thèse au Centre de droit économique de l'Université Aix-Marseille sur le thème de l'engagement coopératif. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également avec nous Bernard, retraité et coopérateur du Super Cafouche depuis la création du projet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, nous avons Olivia, coopératrice depuis 5 ans au Super Cafouche et référente communication.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, je viens de dire plusieurs fois le mot Super Cafouche, mais qu'est-ce que le Super Cafouche ? Qui veut commencer ?
Peut-être moi. Donc, c'est un supermarché coopératif et participatif, c'est-à-dire que tous ses clients sont à la fois copropriétaires du magasin et gestionnaires, c'est-à-dire qu'ils font tourner à 80% le magasin dans toutes les tâches quotidiennes. Hormis trois salariés qui s'occupent de vraiment les achats et la gestion du stock. Et donc, c'est un projet communautaire qui engage les coopérateurs qu'on appelle des gabians, pour vous mettre tout de suite dans le bain. On a des petits noms comme ça. C'est un engagement bénévole de 3 heures toutes les 4 semaines pour faire fonctionner le magasin. Et hormis la part de part sociale, l'achat de part sociale pour faire partie de la coopérative, dans les grandes lignes.
D'accord, donc comment ça se passe exactement si on veut devenir coopérateur et venir faire ses courses au Super Cafouche ?
Donc, c'est la partie coopérative, donc on achète des parts sociales. Et la partie participative, on fait ses 3 heures par mois, enfin toutes les 4 semaines exactement, pour faire fonctionner le magasin. Voilà, donc on peut être caissier, on peut être à l'accueil, on peut faire du réassort dans les rayons, de la réception de livraison, voilà, c'est assez varié.
Combien de parts sociales il faut acheter et quel est le coût total ?
Alors, pour rentrer la souscription classique, c'est 10 parts à 10 euros, donc 100 euros, qui est payable en plusieurs fois. Et y a aussi des conditions pour les revenus plus faibles, c'est-à-dire on va proposer aux étudiants, aux jeunes de moins de 26 ans et aux bénéficiaires de minima sociaux de payer que 10 euros. Voilà. D'accord. Donc leur situation perdure.
Et les parts sociales, c'est différent de l'adhésion associative ?
Tout à fait. C'est-à-dire que les parts sociales, elles sont acquises à vie. On peut, contrairement à une adhésion associative, on paye une fois et on peut partir de la coopérative plus tard, mais... C'est pas tous les ans.
D'accord. Et alors, comment s'est créé ce projet ? Comment est né le Super Cafouche ? Peut-être ouais. Bernard, comme tu es coopérateur depuis le début du projet, tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors effectivement, oui, ça fait quelques années que je suis dans le projet, depuis 2017 exactement. À l'époque, la coopérative n'existait pas. Nous étions une association qui s'appelait Super Cafouche. Association qui est devenue les amis de Super Cafouche entre-temps, le jour où on a créé la coopérative, c'était en juin 2019. À ce moment-là, nous étions, je crois, le jour de la création, nous étions une centaine de coopérateurs. Aujourd'hui, nous sommes 1126 exactement à ce jour. Et donc l'historique, en fait, c'est deux personnes qui ont eu l'idée de créer cette structure. L'idée a germé en 2015. Moi, j'étais pas là à l'époque. L'association s'est créée en septembre 2016. Et puis très rapidement, elle s'est créée sur le modèle qui existe depuis 40 et quelques années aux États-Unis, qui s'appelle la Park Slope Food Coop. Donc, c'est une coopérative qui marche très bien et qui a essaimé un petit peu partout, dont à Paris, à la Louve. Voilà. Et nous, ce que nous avons créé donc, au départ, l'association, c'était sur le modèle de la Louve, avec l'idée de créer plus tard un supermarché. Donc, nous avons d'abord... Nous sommes passés par plusieurs stades. Le premier stade, c'était un groupement d'achat. Et donc, on faisait des achats groupés tous les mois. Et voilà, chacun passait sa commande et on faisait une livraison le jour J. Soit dans un lieu qu'on nous prêtait, soit c'est chez un des membres de l'asso. Ensuite, l'étape suivante, ça a été en 4 avril 2018. Et nous avons ouvert une épicerie près de la porte d'Aix, une épicerie test qui faisait 60 mètres carrés d'espace de vente. Cette expérience s'est prolongée pendant 4 ans. Donc, ensuite, nous avons, à partir du jour où on s'est installé dans l'épicerie, on a tout de suite commencé à chercher un local pour installer un supermarché. Donc, on en a vu plusieurs dans Marseille. On a arrêté notre choix sur un local qui se trouve rue Chevalier Rose. C'était un local qui était complètement vide, il n'y avait rien dedans, il y avait tout à faire. Et nous avons fait, après 8 mois de travaux, qui ont démarré cette année, début janvier. Nous avons ouvert le supermarché dans lequel nous sommes installés maintenant, exactement le 31 août 2022. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'histoire très rapide de notre structure. Et nous avons gardé l'association, qui s'appelle maintenant les Amis du Super Cafouche, et qui a pour vocation d'apporter un soutien à la coopérative. En termes d'action de communication, de promotion, d'événementiel, etc. Et nous avons par ailleurs, dans nos locaux, qui font 630 mètres carrés, réservé un espace qui sera animé par l'association Les Amis du Super Cafouche.
Merci beaucoup pour cet historique de toute l'histoire de votre collectif, de vos expérimentations. On sent dans votre discours que vous avez fait un sacré chemin avec pas mal de monde à expérimenter, à aller chercher des inspirations à d'autres endroits. Mais je m'interroge encore un peu sur le fonctionnement. Donc, donc vous avez un magasin où vous achetez en gros et où vous mutualisez vos moyens pour pouvoir investir dans des biens. Et le fait d'être coopératif, d'avoir adéré, ça nous permet de pouvoir acheter à prix réduit par rapport à un autre magasin. Quel est l'avantage au final de faire partie de ce projet?
Ah, alors l'avantage, en fait, le but, le cœur de notre projet, c'est apporter une alimentation de qualité à des prix abordables pour le plus grand nombre. Voilà. Donc, l'intérêt du modèle, c'est effectivement que d'abord, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Nous avons de faibles coûts de gestion parce que c'est nous qui faisons le travail bénévolement à 80% pour faire fonctionner le supermarché. Et ensuite, nous avons, c'est nous-mêmes qui choisissons nos fournisseurs, nos produits, nos circuits d'approvisionnement, etc. Si bien que nous arrivons, en faisant une gestion au plus près, à avoir des produits de qualité. Je crois que tous les coopérateurs sont unanimes pour le dire, et à des prix qui sont quand même nettement inférieurs à ce qu'on peut trouver, aux équivalents qu'on peut trouver dans des magasins bio ou même la grande distribution pour la partie bio, entre guillemets, de la grande distribution.
Oui, ça a l'air très intéressant. En plus, maintenant, on voit de plus en plus d'agriculteurs qui ne se font pas certifier bio, même s'ils font du bio, juste parce qu'ils ont pas le budget pour pouvoir investir dans cette certification-là. Parce qu'il faut savoir qu'une certification, un label, on le paye. D'après ce que j'entends, ça veut dire que tous les coopérateurs vont aller voir les produits, les producteurs, les essayer afin de conseiller tout le monde de prendre tel ou tel produit.
Alors, non, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a quand même un groupe de coopérateurs qui s'est spécialisé dans la recherche des fournisseurs. Donc, il y a un comité qui s'appelle le comité achat. Mmh. Et par ailleurs, nous ne faisons pas que du bio. Ce que nous recherchons, c'est la qualité des produits. Et oui, c'est pas forcément dans les bio qu'on trouve les meilleurs produits. En fait, c'est pas toujours dans les bio. Alors, nous sommes exclusivement en produits bio sur tout ce qui est fruits et légumes. Pour le reste, ce n'est pas que du bio. Ce que nous recherchons, c'est des gens, des partenaires, des fournisseurs, des producteurs qui s'engagent sur une certaine qualité de produit, qui partagent nos valeurs, notre éthique, et qui sont disposés à être plutôt dans un mode de collaboration avec nous que dans un mode client-fournisseur. Parce que un des aspects du modèle, c'est que nous ne cherchons pas à pressuriser les fournisseurs. Nous voulons payer le juste prix. Nous sommes aussi là pour défendre les producteurs, en particulier le monde paysan, parce que nous sommes conscients que c'est grâce à eux que nous pouvons avoir des produits de qualité. Et pour avoir des produits de qualité, il faut qu'ils puissent bien vivre. Donc c'est plutôt un partenariat avec nos fournisseurs. Et voilà, nous avons un taux de marge qui est relativement faible, qui tourne autour de 20%. Si on compare avec la grande distribution, ça n'a rien à voir. Et nous avons un taux uniforme, clair, limpide, sur tous les produits. C'est le même taux de marge. Nous ne pratiquons absolument pas les ristournes, rétrocommissions, machin, etc., que pratique la grande distribution. En fait, nous voulons être un contre-modèle à la grande distribution, hein, pour tout vous dire. Mais je reviens à l'objectif principal, hein, c'est des produits de qualité au meilleur coût. Pour avoir des coûts réduits, on réduit notre marge. Et pour réduire notre marge, c'est nous qui faisons tout le travail de gestion du magasin.
Et donc,
je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, d'ailleurs.
Ah si, vous avez bien répondu. D'après ce que je comprends, c'est un peu un service mutualisé par la participation de tous au projet. Donc une coopérative, quoi.
Absolument. Comme vous l'avez dit. Et oui, pour compléter votre question, effectivement, tous les coopérateurs peuvent faire des propositions de produits et toutes les propositions sont les bienvenues, sont enregistrées. Mais il y a quand même un petit groupe de spécialistes, entre guillemets, enfin de gens qui se sont plus intéressés à la question, qui sont là pour réaliser les achats.
Oui, j'imagine que vous avez un modèle de gouvernance assez intéressant et participatif qui donne la parole à tous, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard.
Ah oui, ça c'est un autre aspect, effectivement, qui est très...
Une autre petite question, excusez-moi. Je me demandais, est-ce que... Si on n'est pas du coin et qu'on ne peut pas s'investir dans le projet, est-ce qu'on peut venir aussi acheter dans ce magasin ? Parce que vous êtes un magasin, peut-être un contre-modèle, mais qui s'adapte quand même au modèle prédominant pour rester compétitif ou...
Alors, pour pouvoir acheter dans le magasin, il faut remplir deux conditions. Avoir acheté au moins une part, voire 10 pour ceux qui remplissent les conditions. Et également fournir 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Donc si vous êtes à distance, c'est un peu compliqué parce que alors pour ceux qui habitent loin, ils peuvent aussi prendre des parts de la coopérative, mais ce sont des parts dites parts B. Hein, la part classique, c'est la part A. Et les parts B sont plus des gens qui veulent soutenir le projet, mais qui ne peuvent pas venir faire leurs courses dans le supermarché.
D'accord. Donc, dans tous les cas, il faut avoir au moins une part dès la première fois que l'on veut venir acheter chez vous.
Voilà. Pour bénéficier de ce modèle, il faut avoir une part de coopérative minimum et fournir 3 heures de son temps toutes les 4 semaines.
Et d'où vient cette condition de base ? Est-ce une volonté d'avoir des personnes engagées qui profitent du modèle ?
Alors oui, d'abord c'est la preuve de l'engagement. Pour que le modèle fonctionne, il faut que les coopérateurs s'engagent un minimum, sinon ça ne peut pas marcher. Et par ailleurs, nous avons des contraintes légales qui font que nous ne pouvons fonctionner que avec des personnes qui sont membres de la coopérative, c'est-à-dire qui ont des parts. L'achat de parts est une condition nécessaire, sinon nous serions nous pourrions être taxés de...
Concurrence déloyale.
Concurrence déloyale, cherchez le mot, par les commerces alentours.
D'accord. Oui. Très intéressant, je ne connais pas tous les rouages.
Mais... Oui, bien sûr.
Alors, si je puis me permettre de compléter juste ce que vient de dire Bernard, et pour répondre à la question d'où viennent ces conditions, en fait, en principe, elles viennent du troisième principe universel coopératif. Donc c'est une liste de principes qui s'applique à toutes les coopératives dans le monde entier et qui oblige la participation économique des membres. C'est-à-dire que les membres doivent s'impliquer, on va dire, par leur activité, mais en l'occurrence pour le Super Cafouche, c'est par la consommation, donc l'achat au Super Cafouche, mais également de manière économique en achetant des parts sociales, puisque contrairement à une société lambda, les coopératives n'ont pas recours aux investissements extérieurs. Donc c'est par là qu'on investit, c'est le capital social, sans lequel il n'y a pas de coopérative. Et c'est pour ça que c'est une obligation sans laquelle le statut coopératif peut être perdu. Après, on peut avoir des situations où on ouvre un petit peu la coopérative, on appelle ça des coopératives ouvertes, mais on l'a constaté dans les faits que petit à petit, plus on ouvre, plus le statut coopératif s'évapore et d'autres considérations plus pécuniaires entrent en jeu. Voilà.
Merci pour ce complément de réponse. Est-ce que vous auriez un exemple de modèle coopératif ayant disparu avec le temps pour...
Alors, j'ai un exemple de modèle coopératif qui existe encore, mais qui n'est plus une coopérative, selon moi. Sans vouloir, enfin, Camille m'avait dit que je pouvais dire ce que je voulais, donc je vais y aller. Hein. On a le grand Lactalis, le géant Lactalis, qui est une société coopérative agricole qui clairement n'a rien de coopératif depuis très longtemps, qui représente une multinationale sur tous les aspects et qui bénéficie du statut coopératif qui lui permet d'avoir des avantages fiscaux, une petite protection au droit de la concurrence. Voilà, donc on a Biocoop aussi, qui n'est plus vraiment une coopérative, avec tout le respect que je leur dois. En tout cas, je suis censée leur devoir. Voilà, donc c'est...
Merci.
Si je peux compléter, on a parmi nos coopérateurs et coopératrices des gens qui viennent des États-Unis où le modèle du Super Cafouche existe depuis 50 ans bientôt, avec la Park Slope Food Coop. Et donc, depuis les années 70, il y a eu des déclinaisons dans New York, notamment, du modèle des supermarchés coopératifs et participatifs qui ont périclité justement par une ouverture à la vente à des non-coopérateurs. Et le modèle économique n'a pas tenu au fil des ans. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut se tenir au modèle de base. Voilà.
Et si, parce que ce modèle, il ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que du coup, il n'y a plus assez d'investissement par les coopérateurs et c'est... trop de consommateurs et de bénéficiaires du modèle ?
C'est aussi, oui, parce que le principe de notre coopérative, c'est l'implication des membres dans le fonctionnement du magasin.
Les 3 heures.
Qui réduit énormément les charges et qui rend les prix à la vente intéressants.
Ok. Et est-ce que ça pourrait fonctionner si vous n'aviez pas de nouveaux coopérateurs ?
Non, on a un business plan, donc voilà, on espère avoir de plus en plus de coopérateurs, même si ce n'est pas exponentiel. Mais on va atteindre un équilibre, on espère, d'ici 2 ans.
Oui, des coopérateurs qui arrivent, des coopérateurs qui repartent.
Oui, évidemment, on a sur le nombre de nos 1126 coopérateurs, comme disait Bernard tout à l'heure, tout le monde n'est pas actif. Il y a des gens qui ont déménagé, qui ne se sont pas signalés, donc ils ne viennent plus faire leur service au magasin, ils ne viennent plus faire leurs courses. Mais dans notre business plan, entre guillemets, on table sur 60% d'actifs et un certain nombre de coopérateurs. Donc d'ici 2 ans, on espère être entre 2000 et 2400 dans ces eaux-là.
Ce qui est honnête.
Et avec aussi, il y a comme critère pour réussir, arriver à l'équilibre financier, c'est aussi un panier moyen mensuel qui est de 150 euros.
Et là, de 150 ou 250 ?
150.
150,
voilà.
Ok.
C'est une moyenne, hein, donc ça dépend des foyers. Il y a des foyers avec une seule personne, des foyers avec famille. Donc voilà, c'est très variable. Donc ça, c'est pour arriver à l'équilibre financier, sans perdre d'argent, en pouvant rembourser nos crédits, puisqu'on a fait beaucoup de travaux dans ce local qui était vide depuis des années. On a investi dans du matériel pour le rayonnage, les chambres froides. Enfin voilà, c'est quand même conséquent comme investissement. On a un loyer aussi qui est en centre-ville, vous imaginez, vu la surface. Donc voilà, tous ces paramètres font qu'on a des objectifs à atteindre, mais on est sur la bonne voie là, depuis 2 mois d'ouverture. C'est plutôt encourageant.
Et s'il y a des auditeurs parmi nous qui sont intéressés pour devenir coopérateurs, mais qui se posent encore des questions, vous organisez des réunions d'information toutes les semaines, il me semble.
Tout à fait, deux fois par semaine. Donc c'est le mercredi soir à 18h en ce moment, enfin tout à l'heure, et le samedi à 17h. Sinon, ils peuvent toujours passer au magasin aux heures d'ouverture, c'est-à-dire du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h30 à 20h. Et le samedi de 9h à 19h. Et il y aura toujours quelqu'un à l'accueil, un coopérateur, une coopératrice pour répondre à leurs questions et éventuellement prendre leur souscription. Voilà.
Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on devient coopérateur, il faut donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Et comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a une sorte d'emploi du temps? Voilà, comment vous organisez ces 3 heures par personne toutes les 4 semaines?
Une police qui va nous dire il faut venir absolument.
On a un groupe de coopérateurs qui sont organisés dans un petit comité qu'on appelle le bureau des membres et qui ont mis en place une planification très très bien structurée. Donc il y a un tableau sur lequel chacun... À chaque fois qu'un nouveau coopérateur arrive, il choisit son créneau de service. Ce créneau est inscrit sur le fameux tableau et voilà, enfin, tous les créneaux sont remplis de cette façon. Sachant qu'il faut quand même beaucoup de coopérateurs pour faire tous les créneaux, quoi.
Et comment ça se passe si un coopérateur a un empêchement sur le créneau qu'il a sélectionné un jour?
Il suffit qu'il prévienne à l'avance. Deux types de créneaux. Il y a les créneaux fixes. Donc on s'engage sur un créneau, mettons le mardi de 8h à 11h. Et puis il y a ce qu'on appelle les flottants. Ceux qui ne peuvent pas s'engager sur un créneau fixe peuvent prendre un créneau flottant. Et à ce moment-là, on a un vivier de coopérateurs qui peuvent remplir les créneaux qui se vident parce que quelqu'un n'est pas dispo le jour J.
Mais il y a quand même une souplesse dans la mesure où chacun a son espace membre personnel où il peut aller gérer ses services qu'on appelle au coup par coup. Le créneau, c'est la plage fixe qu'on choisit toutes les 4 semaines et le service, bon, c'est la date le jour J à telle heure. Et donc, si un coopérateur n'est pas libre à telle date, il peut changer son service à l'avance, jusqu'à 24 heures à l'avance, sur son espace membre personnel, en toute autonomie. Et si c'est dans un délai plus court que 24 heures, dans ce cas-là, il fait appel au bureau des membres, qui est très réactif. Et ça fonctionne assez bien.
Est-ce que c'est... Alors, il y a une équipe de 3 salariés aussi,
oui.
C'est ça? Donc, eux, ils sont là...
Ils sont là tous les jours. Ouais.
D'accord. Donc parce que j'avais demandé, est-ce que c'est déjà arrivé sur un créneau qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait aucun coopérateur de disponible?
Ah non, c'est jamais arrivé. Non,
non, c'est pas
si
possible.
Si c'est le cas, on ne peut même pas ouvrir. Donc, non, c'est jamais arrivé.
D'accord. Et donc, avant la pause musicale, je voulais aussi revenir sur vous. Comment est-ce que vous êtes devenu coopérateur et coopératrice au Super Cafouch?
Je veux bien commencer.
Le plus ancien.
Je suis là depuis longtemps. Moi, j'ai entendu parler de la Louve par quelqu'un de ma famille qui est à Paris, qui m'a parlé un peu de ce modèle. J'ai trouvé ça très intéressant comme expérience. Du coup, je me suis renseigné pour savoir si ça existait aussi à Marseille. Et là, je suis tombé sur le Super Cafouche qui venait d'émerger. C'était à l'époque où c'était encore l'association. Voilà, puis je suis allé les voir, j'ai bien aimé l'ambiance que j'ai trouvée, parce que c'est vrai que... Alors, on parle depuis tout à l'heure du modèle économique, tout ça, du fonctionnement, mais c'est avant tout l'aventure d'une bande de copains, et moi, c'est ça qui me plaît depuis le début. Donc, quand je vais là-bas, je vais autant pour retrouver mes amis que pour faire mes courses, en gros. Et donc, j'ai bien aimé cette ambiance... Puis le fait que ce soit quand même un contre-modèle, je suis sensible depuis toujours aux questions d'écologie, etc. Et j'ai trouvé là l'expression de un truc qui me convient bien et je m'y suis investi de plus en plus. Voilà.
Et tu y es depuis le début?
Pas loin.
Et vous, Olivia et Adjer?
Donc moi je suis arrivée peut-être un petit peu après Bernard. C'est-à-dire fin 2017, juste avant l'ouverture de l'épicerie test, à un moment où je venais de voir le film Food Cop sur la coopérative de New York. J'avais trouvé le modèle génial Et juste à ce moment-là, j'apprends qu'il y a un projet sur Marseille. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée. Et voilà. Et puis j'ai eu auparavant aussi, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans l'ESS, dans des assos. Donc c'est un milieu qui me parle au niveau engagement.
Qui t'est familier.
Voilà. Ça répond à une quête de sens et de valeur.
Alors moi, pour le coup, je suis une coopératrice bébé. Je suis là depuis un mois, très exactement. Demain, ça fera un mois, jour pour jour. Et c'était vraiment le fruit d'un hasard pur. J'étais à la vente des plantes pour tous. Et je discute avec une dame qui se trouve être coopératrice. Et donc, elle me parle de ça. Et puis, je lui dis, mais c'est génial. Moi, je fais une thèse sur les coopératives. J'en cherchais une dans le coin. Et du coup, bah, j'y suis allée 2 semaines plus tard à une réunion. Et je me suis inscrite directement. Voilà, j'ai adhéré. Sans trop réfléchir, c'est un excellent modèle.
Et moi, j'ai une petite question un peu complémentaire à toutes vos réponses. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'adhérer, pas comment vous êtes devenu adhérent, comment vous êtes devenu coopérateur, mais qu'est-ce qui vous a donné envie au fond? On a déjà entendu des petites réponses, le fait de s'engager, de faire que ce soit un contre-modèle. Peut-être. Pour continuer, ce ne serait pas juste de vous qu'il faudrait parler, mais plutôt des coopérateurs en général. Pourquoi les gens choisissent de devenir coopérateurs?
Il y a plusieurs raisons. Chacun a les siennes. Mais pour beaucoup, on entend ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est ça recrée du lien social, c'est vrai. C'est quand même une ambiance très communautaire et très, très solidaire et conviviale. Et puis aussi une quête d'alternative et une prise de responsabilité personnelle sur notre consommation. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ne supportaient plus d'aller dans les grandes surfaces, de ne pas trouver les produits qu'ils cherchaient et de ne pas avoir vraiment de transparence, notamment sur les marges dont on parlait tout à l'heure.
Les provenances, les fournisseurs,
voilà, d'être agressé par des promotions, enfin du marketing à outrance. Tout ça, je pense qu'on se retrouve dans l'ensemble sur ces critères-là.
Oui, je crois qu'il y a un aspect aussi qui est hyper important pour tous les coopérateurs, j'ai l'impression, c'est le côté local, la consommation locale. Je crois qu'on en a tous un peu marre de consommer des produits qui viennent d'Espagne, du Maroc, voire de l'autre bout du monde. Et c'est une question très sensible. On le voit, si par hasard il nous arrive d'avoir des fruits ou des légumes qui viennent d'un peu loin, les coopérateurs nous le font remarquer tout de suite. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi la défense des producteurs. Parce que moi, personnellement, j'y suis très sensible. Je suis né dans une ferme, je viens du monde paysan. Je sais ce qu'ils ont passé depuis 50 ans. Voilà, le fait de défendre des producteurs, c'est aussi un des aspects qui motive beaucoup les coopérateurs.
Merci beaucoup pour ces réponses. Je trouve que c'est des superbes réponses. Créer l'alternative, avoir le lieu où on a vraiment tous nos besoins qui sont répondus.
Un lieu de vie et de rencontre.
De rencontre, de l'éthique, du lien social. Très bien. J'ai une question qui me trotte dans la tête, mais je pense que je vais la garder pour après la pause musicale. Qui est-ce qui veut annoncer cette chanson que vous avez choisie?
Alors, pour la petite pause musicale, on va rester un petit peu dans le sujet et on va envoyer un petit Talking About Revolution de Tracy Chapman.
Merci beaucoup. À tout de suite.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up,
get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Nous sommes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. Et ce soir, nos invités ils viennent ici pour nous présenter le Super Cafouche, un supermarché coopératif. Et nous avons la chance, parmi les trois invités, d'avoir Adjer, qui effectue une thèse sur le thème de l'engagement coopératif. Donc, en première partie, vous nous avez présenté le Super Cafouche, vous nous avez expliqué comment vous êtes devenu coopérateur du Super Cafouche. Et dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur les coopératives en général.
Alors, les coopératives en général. Alors, juste une petite précision. Alors, moi, j'ai décidé de travailler sur les coopératives parce que je voulais utiliser vraiment l'ingéniosité et l'ouverture du droit des affaires pour une bonne cause, au lieu de faire une énième thèse sur l'optimisation fiscale. Je pense que voilà, on a suffisamment entendu parler. Et donc je me suis lancée dans ce parcours et j'ai découvert, au-delà d'un opérateur économique de proximité ou d'un opérateur économique puissant à visage humain, tout un monde parallèle. Vraiment, la coopérative, c'est le mouvement coopératif. C'est quelque chose qui repose sur des principes universels. Alors, si vous voulez, on peut les évoquer ensemble. Et du coup, je pense que je vais un petit peu me répéter par rapport à ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit en première partie, c'est une application de ces grands principes. Donc on a le principe de l'adhésion libre et volontaire, la gestion démocratique, un homme, une voix. Donc peu importe le nombre de parts sociales que vous possédez, vous avez le même droit de vote. Donc ça permet vraiment de garder les choses équilibrées. La participation économique des membres, la suppression des intermédiaires, c'est la raison pour laquelle on doit travailler pour la coopérative. La solidarité entre coopératives, alors ça c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est que les coopératives sont censées s'entraider sans déroger aux règles du droit de la concurrence. Alors que des sociétés lambda qui s'entraideraient, ça peut être considéré comme une entente sanctionnée légalement. Donc les coopératives échappent à ça avec la bénédiction de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère qu'au regard de leur statut et de leur volonté de promouvoir des valeurs humaines, les coopératives échappent à certaines règles du droit de la concurrence, pas toutes évidemment. On a également la limitation de la répartition des bénéfices, évidemment, le but étant de prendre les bénéfices pour accroître la solidité financière de la société et non pas simplement pour enrichir les investisseurs. Et enfin, et ça vraiment c'est très très particulier, on a la répartition des bénéfices qu'on appelle excédents coopératifs, pas dividendes, au prorata du volume d'activité fourni par le coopérateur et non pas en fonction de la participation au capital. Donc on voit vraiment que la participation au capital est quasiment, enfin, elle sert juste à faire exister un capital social. Mais ce n'est pas ça qui vous permettra d'obtenir un quelconque avantage. Alors, donc ça, c'est vraiment les principes universels de la coopérative. Coopérative qui existe officiellement, puisqu'on a des données qui reviennent sur ça, dans 157 pays et qui fonctionne partout de la même manière. Et alors, moi, j'ai été particulièrement surprise quand j'ai commencé ma thèse, parce que j'ai quand même fait un master 2 en droit des affaires, en droit économique, et je n'avais jamais entendu parler de la coopérative. La coopérative n'est pas visible, on n'en parle pas, on ne la met pas en avant. Et alors, on a tendance à se dire, c'est un système un petit peu marginal, ça ne donne pas très envie. Non, ce n'est pas marginal, c'est 12% de l'humanité, selon l'Observatoire mondial des coopératives. 1 milliard de personnes seraient membres d'une coopérative dans le monde. 280 millions de salaires sont versés annuellement par des coopératives. Le chiffre d'affaires cumulé des 300 premières grandes coopératives mondiales est de, tenez-vous bien, 2180 milliards de dollars. Et là, c'est que les 300 premières, puisqu'il existe 3 millions de coopératives dans le monde. Et alors, du coup, je commençais à me dire, mais c'est incroyable, les chiffres sont très favorables, mais qu'en est-il des valeurs ? Et là, je découvre que les coopératives, c'est depuis un petit moment, depuis 92, le petit chouchou de l'Organisation des Nations Unies, qui leur a consacré l'année 2012, donc l'année 2012 a été vraiment l'année des coopératives à l'ONU, qui considère que les conditions de vie de 3 milliards de personnes sont améliorées grâce aux sociétés coopératives. C'est quand même presque la moitié de la population mondiale et on ne connaît pas le modèle. Ce n'est pas très connu, ce n'est pas très visible. Et à ce propos, l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, disait qu'en tant que partenaire important du développement, le mouvement coopératif travaille avec l'Organisation des Nations Unies tous les jours pour promouvoir l'autonomie des peuples, renforcer la dignité humaine et aider à la réalisation des objectifs pour le développement. C'est ça qui est merveilleux dans la coopérative, c'est que finalement, c'est cette espèce d'ovni, cette société hybride qui n'est pas contre le profit, mais elle est contre les conditions de travail dégueulasses, pardonnez-moi. Elle n'est pas contre la croissance économique, mais elle considère qu'il y a des priorités. Et les priorités de la coopérative, ce sont ses coopérateurs. Elle n'existe que par eux et pour eux. Son objectif premier est de rendre service à ses coopérateurs et dans un second temps, renforcer sa croissance économique pour devenir le leader de l'économie sociale et solidaire, soit dit en passant 8% du produit intérieur brut français. Donc encore une fois, ce n'est pas marginal. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide, on va dire, des chiffres de la coopérative.
J'ai peut-être une petite question. Oui. Est-ce que tu à des exemples donc des coopératives les plus connues, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne connaissaient pas le concept de coopérative, et qui pourtant connaissent certainement certaines coopératives sans savoir que ça en est.
Alors, les farines francines, est-ce que ça vous parle ?
Oui.
Ben, c'est l'une des plus grandes coopératives céréalières en France. Ensuite, on a toutes les coopératives agricoles telles que Sodial, me semble-t-il, c'est ça le terme. On a, j'oublie le terme, la coopérative, la fameuse coopérative espagnole d'électroménager. Aidez-moi.
Alors là, ça ne m'y rien du tout.
En tout cas, les coopératives existent vraiment dans absolument tous les domaines et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, on trouve même des coopératives d'avocats ou de médecins ou de kinés. Et voilà. Donc,
et est-ce qu'on est capable...
Nous avions reçu une coopérative d'ailleurs, Massilia Sun System, qui fait de la gestion de parcs photovoltaïques, qui gère l'installation, les fonds nécessaires pour les installer et ensuite... la distribution de l'électricité ainsi que l'entretien.
Qui ont d'ailleurs installé des panneaux sur le toit de la friche.
Exactement. Et d'ailleurs, je crois que le chantier a été fini il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment assez magnifique de voir ça sur le toit de la friche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est très joli. On se croirait sur un autre monde de voir tous ces panneaux solaires plaqués sur notre toit.
Et j'avais une autre question sur l'histoire des coopératives. Est-ce qu'on a trouvé une origine du concept? Est-ce que ça vient d'un pays et les autres ont imité? Ou est-ce que, sans se le dire, dans différents pays, des hommes et des femmes ont eu un peu la même idée
Alors, bien que la France soit quand même championne du monde de la coopérative, et juste après elle, il y a la Finlande, en Europe, l'origine de la coopérative viendrait, est a priori attribuée, aux équitables pionniers de Rochdale en 1844 en Angleterre. Voilà, donc pauvreté, crise économique, et c'était des marchands qui ont décidé de mettre en commun... des moyens afin de permettre à la population d'améliorer ses conditions de vie et d'avoir accès à des denrées alimentaires à juste prix. Et d'ailleurs, c'était vraiment ça leur principe, c'était le juste prix, toujours obtenir le juste prix par la suppression des intermédiaires. Et donc, ces équitables pionniers de Rochdale sont les pères fondateurs de la coopération moderne et ils utilisaient tous les excédents qu'ils engrangeaient de leur coopérative pour le bien commun, donc pour reconstruire les quartiers malfamés et les habitations insalubres laissées par la crise. Voilà, donc voilà, si on doit attribuer une origine à la coopérative, ça serait les équitables pionniers de Rochdale, 1844, en Angleterre.
D'accord, merci. Et est-ce que tu aurais un chiffre, à peu près combien il y a de coopératives en France?
Alors, j'ai vraiment peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'on est sur à peu près 3000 coopératives, quelque chose comme ça.
D'accord, et ça peut être dans des domaines très variés, ça peut être des supermarchés coopératifs comme le Super Cafouche, ça peut être quoi
voilà.
d'autre
Alors, ça peut être dans absolument tous les domaines, et on a quand même deux leaders qui représentent, qui en tout cas pèsent dans l'économie française. On a d'abord les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, qui sont des sociétés de production, des sociétés industrielles. Alors, les SCOP sont vraiment très nombreuses. Elles affichent une augmentation croissante depuis 2016 et représentent 5,6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et ensuite, on a les géants coopératifs, qui sont les coopératives agricoles, qui représentent 40% de l'agroalimentaire français, avec un chiffre d'affaires annuel de 86 millions d'euros. 86 millions, ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même pas mal du tout.
Millions ou milliards? Parce que 86 millions d'euros, ça paraît...
Non, 86 milliards d'euros.
Ah, ouais. D'accord. Et tout à l'heure, c'était 5 milliards aussi, j'imagine.
Oui, absolument.
Les scopes, oui, d'accord. Je comprends mieux.
Et pour revenir sur le Super Cafouche, est-ce que c'est le seul supermarché coopératif qu'on trouve sur Marseille et dans les alentours, ou est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type
Alors, à Marseille même, nous sommes les seuls. En revanche, on peut quand même citer la Coop-sur-Mer qui est à Toulon, c'est pas très loin. Il y a un projet sur Avignon, mais je ne sais pas où ils en sont. Je ne pense pas qu'ils aient encore ouvert un supermarché. Il y a eu un projet sur Aix. Pareil, je ne sais pas où ils en sont. Et sinon, il y a la coopérative de Montpellier, la Cagette, là, qui
depuis
tourne.
Depuis 5 ans, qui a fêté ses 5 ans en septembre.
Voilà. Qui a ouvert, oui, à peu près à l'époque où on a ouvert l'épicerie. Donc ça fait... Ou même avant, ils avaient ouvert un peu avant. Ils ont dû ouvrir en 2017.
Et au-delà, aujourd'hui en France, on comptabilise à peu près une douzaine de supermarchés coopératifs à l'échelle supermarché. Et sinon, il y a 80, tout confondu, 80 projets en cours de développement jusqu'à l'étape supermarché. Voilà. Et ça a essaimé en Europe aussi. Il y a des projets en Suède, il y a des supermarchés coopératifs en Belgique, en Suisse, en Irlande. Enfin voilà, c'est vraiment un modèle qui essaime en Europe.
Et Adjer, tu disais tout à l'heure qu'un des principes d'une coopérative, enfin des coopératives, c'est de s'entraider aussi, de se conseiller. Est-ce que vous avez reçu de l'aide d'autres coopératives, notamment on parlait d'une coopérative, la Louve, une coopérative parisienne.
Oui,
est-ce que vous avez eu des conseils?
Oui.
Vous avez pu
clairement
faire appel
oui.
à eux
oui. Oh, bon, avant de démarrer, on a rencontré Tom Booz, donc, qui est le fondateur de la Louve à Paris. qui nous a largement reçus. Plusieurs d'entre nous sont allés les voir à Paris, etc. Et oui, on a eu énormément de conseils. Et par ailleurs, il existe... il y a un petit moment que ça ne s'est pas fait parce que le Covid a un peu cassé tout ça. Mais jusqu'en 2019, il y avait une réunion annuelle de tous les supermarchés, de tous les projets coopératifs de ce type en France.
Une fédération, en gros, Intercop, on va dire.
Voilà. On appelait ça l'Intercop, il y avait une réunion annuelle de tous les projets. Chaque ville recevait à tour de rôle l'ensemble des projets.
Est-ce que vous savez si ça va se refaire ?
Bon, on l'espère, mais de toute façon, il existe un forum sur lequel il y a énormément d'échanges entre tous les supermarchés coopératifs. Oui.
D'accord, donc je ne sais pas si demain, une coopérative, enfin, des personnes veulent ouvrir une coopérative dans un village, dans une ville, ils peuvent compter sur les autres coopératives déjà existantes.
Absolument, oui, nous on a reçu d'autres coopératives, on est allé en voir d'autres, oui, bien sûr.
Notamment
beaucoup
les plus
d'échanges.
Proches, la Cagette et la Loup et la Cop-sur-Mer à Toulon qui a ouvert récemment, hein, en 2020, fin 2020.
Oui.
C'est vrai qu'on est très en lien avec nos proches voisins.
Oui.
D'accord. Donc, il y a une solidarité entre coopératives. Et pour revenir sur le Super Cafouche, est-ce que vous savez comment le nom a été choisi, d'où ça vient?
Alors, moi, je le sais un petit peu. J'étais pas là au moment où le nom a été choisi. Il y a eu une espèce de brainstorming. Il y avait deux noms qui émergeaient. C'était La Cambuse et Super Cafouche. Et c'est Super Cafouche qui a été choisi.
Et donc, est-ce que le super, c'est pour supermarché ?
C'est ça, absolument. Et un Cafouche, bon, à Marseille, tout le monde sait ce que c'est. Hein.
Et oui, c'est très marseillais.
Ah oui, c'est provençal. Oui, c'est,
moi,
c'est
je veux
peu...
bien un petit
on
rappel.
On trouve tout dans un Cafouche.
Alors, le Cafouche, Camille. C'est l'arrière-cuisine dans laquelle on range tout ce qu'on ne veut pas voir. Ah. C'est un petit peu le fourre-tout.
D'accord.
La pièce à bordel.
Ok.
Voilà, j'adore dans chaque maison en Provence, il y a un Cafouche.
Ce qui ne veut pas dire que notre super Cafouche est un super
bordel.
Ah, super amas.
C'est très rangé.
Très, très organisé.
Un tas de produits.
Tu fais bien de le
il
préciser.
Il est hyper clean.
On ne sait jamais.
On invite tout le monde à venir le visiter, d'ailleurs, parce qu'il est trop beau.
On fait les choses sérieusement, malgré tout.
Ouais.
Et... quelles sont les actualités du Super Cafouche ? Est-ce que vous avez des événements de prévus dans les prochaines semaines ? Ou voilà, quelles sont les prochaines étapes du projet pour continuer à croître ?
Alors, les prochaines étapes... Alors d'abord, on est en pleine période d'ouverture, parce qu'on est ouvert le 31 août, c'est pas vieux. Donc là, on est en train de tout rôder et on se concentre à 100% sur le fonctionnement actuel du supermarché. Alors... les projets, ben, c'est de recruter un maximum de coopérateurs, ça c'est clair. Donc tous les événements qu'on organise sont focalisés sur cet objectif, parce que comme l'a rappelé Olivia tout à l'heure, il faut quand même qu'on arrive à un équilibre économique, et pour arriver à cet équilibre, il faut qu'on soit 2000, voire un peu plus, mais 2000 coopérateurs avec, donc on estime, comme Olivia l'a rappelé, que... sur les 2000, il y aura 60% de réellement actifs, c'est-à-dire qu'ils viennent faire des courses régulièrement, etc. Ça, c'est ce qu'on observe dans tous les autres exemples, avec un panier moyen, donc fixé à 150 euros. Et c'est ça qui nous permettra, en fonction des charges qu'on a aujourd'hui, d'arriver à l'équilibre économique. Donc, on s'est donné comme objectif d'arriver à ça au bout de 2 ans. Donc, aujourd'hui, tout est focalisé là-dessus. Et donc, les prochains événements qu'on va organiser, ça va être...
On peut citer demain soir, par exemple, on a un de nos coopérateurs qui est zytologue amateur. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un zytologue. Donc, c'est un brasseur amateur, quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui touche la bière. Et donc, il avait déjà fait ça l'an passé, à la même période, à l'automne, à l'épicerie à l'époque. On devait être peut-être 50... dégustateur, donc il présente l'histoire de la bière, comment la déguster, et puis il nous présente 5 bières artisanales, et donc il fait ça demain dans notre tiers lieu, demain soir. Il faut aller voir sur notre page Facebook pour s'inscrire, il y a un lien Voilà, parce que...
C'est dommage, j'aime pas la bière, mais pour tous les auditeurs et auditrices qui aiment la bière, n'hésitez pas à y aller. Est-ce que vous allez faire pareil avec le vin par hasard? Parce que le vin, j'aime bien.
Le
par
vin
contre.
Ou le cidre,
ou le cidre.
Non, c'est pas prévu.
C'est pas prévu, mais non. C'est ouvert. S'il y a des, parmi nos coopérateurs, des œnologues qui veulent mettre ça en place, avec plaisir.
Vous me tiendrez au courant. Voilà.
Et puis, on aura aussi des opérations avec les producteurs qui viendront présenter les produits. Ça, ce n'est pas encore organisé, mais on est en train de roder encore une fois les appros et tout ça. Mais dès qu'on sera en place, on fera venir des producteurs, effectivement, qui viendront présenter leurs produits. Et puis, on organisera des petits événements autour de ça.
Donc, plein d'événements gourmands à venir au Super Cafouche et dans le lieu... qui est du coup sur le Super Cafouche, votre tiers-lieu
Oui. Une porte à côté, mais au numéro 16 de la rue du Chevalier Rose.
C'est une partie de nos locaux qui fait à peu près 60 mètres carrés, qui est réservée...
Pour que ce soit un peu plus administratif et sécurisé, je suppose.
C'est un lieu qu'on réserve... Pour rentrer au supermarché, pour venir faire ses courses, il faut être coopérateur. Là, c'est un endroit où... qui sera ouvert sur l'extérieur.
D'accord. Sur l'extérieur. Pour ouvrir tout ça.
Et on organisera des événements ouverts à tout le monde.
J'avais une autre question qui me taraudait. Je vois l'heure qui tourne, il ne reste pas longtemps. Il va falloir être assez exhaustif pour répondre à ça. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit que le modèle coopératif, il est peut-être très attrayant. Il peut permettre de faire des rapprochements entre différents métiers afin d'améliorer vos marges et de réduire des intermédiaires. On voit que c'est très intéressant, que ça marche très bien pour l'agriculture, mutualiser les moyens de production, les transporteurs, la vente. Mais pourquoi dans d'autres endroits, on ne voit pas de grands modèles grandir? C'est quoi les problèmes? Y a-t-il des freins, des coopératives qui ne joueraient pas entièrement le jeu dans cette solidarité que vous avez? Parce que quand vous nous avez dit ça tout à l'heure, ça fait assez peur. On a l'impression que les coopératives peuvent être un lobby assez immense qui pourrait asseoir leur pouvoir sur toutes les autres entreprises. Pourquoi ça ne se fait pas? Quels sont les freins, d'après vous?
Alors, plusieurs freins. Le premier frein est le frein de la répartition des bénéfices. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont pour objectif premier de faire beaucoup de chiffres. Et du coup, la coopérative n'est pas vraiment faite pour ça. Enfin, on peut devenir très puissant, mais il y a quand même des priorités. Ensuite, je pense que la coopérative a une très mauvaise image. Alors déjà, elle a très peu de visibilité. Et ensuite, dans un monde de blockchain, de crypto, de choses comme ça, parler de coopérative... Alors moi, quand je parle de coopérative, on me dit souvent « Oui, ce truc de communiste à l'ancienne, les gens ne savent pas. »
Je pensais qu'il n'y avait que des agriculteurs qui étaient en
coopérative. Et oui, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pas connu. C'est absolument pas connu. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, donc c'est vraiment un truc d'actualité, du 24 au 27 octobre, s'était tenu le 6e sommet des coopératives des Amériques. Et donc, il s'est tenu au Paraguay et ils ont fait une session post-Covid avec 1000 délégués d'Amérique latine et ils étaient très contents sur les chiffres post-Covid et ils ont déploré le manque de visibilité. Encore une fois, ils ont considéré que le frein véritable pour la coopérative actuellement, c'est l'absence de visibilité et le fait que les gouvernements ne s'allient pas encore avec ces opérateurs de manière stratégique pour changer les choses. Voilà. Donc d'accord. Je pense vraiment que c'est beaucoup de visibilité et de mauvaise
pub.
Donc
les coopératives seraient boudées par la presse en général et des gouvernements.
Exactement.
Merci de cet élément de réponse.
Je vais dire un gros mot, est-ce que ça ne va pas aussi un petit peu à l'encontre du modèle capitaliste dominant?
Bah oui, du coup, forcément, c'est un peu compliqué de faire sa place. C'est un petit peu compliqué de faire sa place dans ce monde-là.
Un modèle de compétition se heurte à un modèle de coopération.
C'est exactement ça.
Radicalement différent.
Alors malheureusement, on va devoir rendre l'antenne. Alors, merci. Ah, tu alors, as un mois à
moi, je veux juste donner une petite information pour ceux qui nous écoutent. Alors, le 1er décembre, l'Alliance Coopérative Internationale, donc vous allez sur le site de l'Alliance Coopérative Internationale et vous téléchargez le nouveau rapport de l'Observatoire Mondial des Coopératives dans sa 11e édition qui va nous révéler les chiffres de l'année 2020-2021, donc vraiment post-Covid, et qui va se concentrer sur la manière dont le contrôle démocratique des membres et l'engagement des membres qui en découle peut être amélioré grâce à l'utilisation d'outils numériques. Donc la coopérative se modernise. Et voilà, 1er décembre, vous allez sur le site de l'Alliance Coopérative Internationale. Ça sera le calendrier de l'Avent.
Merci pour ce partage.
Merci beaucoup pour l'information. Et donc n'hésitez pas à devenir coopérateur et coopératrice du Super Cafouche et à participer à l'une des réunions d'information si vous voulez plus en savoir plus sur le sujet. Merci à vous trois d'être venus ce soir sur l'émission Écoforum, qui sera rediffusée demain matin de 9h à 10h et disponible en podcast dans les prochains jours sur le site de Radio Galère. Et bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.